En 1973, Jacques Brel, au micro de Jacques Chancel.
Il y a, à mon avis, trois catégories de chanteurs. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers. Et dans cette dernière catégorie, il y a vous, il y a Ferrat, Ferré, Brassens, il y avait Piaf, il y a Traîneux, il y a d'autres que je me lis.
Mais vous savez, moi je crois qu'il n'y a, pas plusieurs catégories de chanteurs.
Voilà, je vous attendais.
Oui, oui, je ne pense pas à cela, je ne crois pas à cela. Parfois, on m'a demandé ce que c'était qu'un artiste, si vous voulez, enfin, parce que c'est ça. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont mal aux autres, et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres. Et puis, il y a aussi des gens qui ont du talent et des gens qui n'ont pas de talent. Alors, j'essaie de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que cela. Et après, il y a toute une vie à user pour essayer de faire ce quelque chose.
Histoire de voix, une série des médias francophones publics, présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.
Tantôt insouciants, tantôt surprotecteurs, tous les chanteurs entretiennent une relation particulière avec leur voix. Qu'elle soit sauvage ou domptée, la voix contraint le chanteur à trouver son propre équilibre entre discipline et abandon. Comme une complice, une amie ou une amante, elle exige sa juste part de respect et d'amour. Le chanteur Serge Lama a toujours entretenu un rapport sain avec sa voix.
Moi, ma voix, je n'ai jamais travaillé. C'est surtout ça qu'il faut retenir, parce que faut dire la vérité. Et les notes sortaient presque malgré moi. Elles venaient à moi, quoi. C'était formidable. Dans mon enfance, mon père, c'était. Alors d'abord, faire. Pour que la voix se chauffe. Puis après, doucement, j'entendais ça tout le temps. Et moi, jamais, jamais de ma vie, je n'ai travaillé ma voix. Je trouvais que mes tours de chant, c'était largement suffisant. Je chantais tellement. Vous savez, je faisais 250 concerts par an à cette époque. Hein. Mais enfin, je ne me considérais pas comme un chanteur particulier. À voix, oui, bien sûr, je suis malade, c'est une note, la note, il faut aller la chercher, c'est sûr. Alors, puis aussi, une chose dans le tour de chant, vous avez une préparation inconsciente. C'est-à-dire que pendant que vous chantez, il y a quelque chose qui se passe dans votre subconscient qui fait que, quand j'arrive avant la note de « Je suis malade », vers la fin de mon spectacle, il y a quelque chose qui se prépare et qui fait que la note sort. Alors, c'est une espèce d'alchimie que je ne peux pas expliquer clairement, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passait pour moi.
Vous parlez de la fameuse note de « Je suis malade ». Quand vous l'atteignez, est-ce que c'est comme lorsqu'on arrive sur le sommet d'une montagne? C'est quoi la sensation que vous avez ou c'est juste bon?
Oui, je pense que les chansons ont leur tonalité. Mais c'est sûr que la note en haut apporte quelque chose de supplémentaire.
Pourquoi ?
Eh, parce qu'on va vers le haut. Parce qu'on va vers le haut, c'est l'Himalaya. Quand vous êtes dans la note de « Je suis malade », vous êtes le public et vous êtes sur l'Himalaya. C'est là-haut. C'est là-haut.
C'est beau de voir les étincelles dans vos yeux quand vous dites ça, là-haut.
Oui, c'est comme ça. Les gens ont besoin de notes. Alors maintenant, les jeunes, ils passent par la voix de tête, beaucoup. Ce que faisait Charles, d'ailleurs. Charles, il chantait beaucoup dans le nez, avec des trucs à une autre époque. Et ça, en revanche, quand vous chantez comme ça, vous économisez votre voix. Je suis malade, ça fatigue moins qu'avec la gorge. Mais moi, je chantais avec la gorge. Voilà. J'ai un chanteur qui chantait avec sa gorge.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade, parfaitement malade. Tu m'as privé de tous mes chants. J'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. C'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de tous mes mots et j'ai le cœur.
Certains prétendent, au risque de s'attirer les foudres des musiciens, que la voix trône au sommet des plus beaux instruments de musique. Yannick Nézet-Séguin, directeur musical du Metropolitan Opera de New York et chef de l'Orchestre métropolitain de Montréal, voit, lui, un lien indéniable entre les instruments de musique et la voix chantée.
N'importe quel autre instrument de musique, que ce soit le violon, le piano, là, je vais parler des instruments classiques, le cor, la trompette, à la limite même des timbales, parce que les timbales, il y a quand même une certaine mélodie, il y a certaines... C'est accordé, des timbales avec des notes. Tous ces instruments-là, à la limite, sont faits pour imiter la voix humaine. Il y a aucun instrument qui cherche pas finalement le legato de la voix, le velouté de la voix, la chaleur, l'individualité de la voix. Et un bon instrumentiste, c'est quelqu'un qui chante bien sur son instrument. Puis c'est pour ça que moi, j'aime particulièrement diriger les orchestres qui font de l'opéra parce que les orchestres, les musiciens d'orchestre apprennent à écouter la voix et essayer, dans leur façon de jouer leur instrument, d'imiter la voix humaine. La voix humaine, c'est ça se remplace pas, et je dirais que rien qui peut atteindre ce niveau de vulnérabilité et donc d'authenticité que la voix humaine peut donner. Le mot authentique, je pense que c'est très, très important pour la voix.
Pour le docteur Jean Habitbol, la voix humaine prend naissance dans ce qu'il appelle la cathédrale vocale.
La cathédrale vocale, ce souffle pulmonaire, on parle de l'anatomie, arrive au niveau des cordes vocales qui fait vibrer. C'est le prêtre, c'est le patriarche, c'est la chanteuse d'opéra qui va se mettre à chanter. Mais à l'intérieur, toute la structure de la caisse de résonance fait résonner tout ça. Et au moment où ça sort, c'est comme si on écoutait une voix dans une cathédrale et on ne sait pas d'où elle vient. Et cette résonance, c'est un don de Dieu, c'est un don divin. Et la cathédrale, c'est toutes ces résonances des cordes vocales qui font résonner dans cet édifice de l'homme avec un grand H, de l'être humain. Eh bien, cette résonance de la vibration, tout le monde ne l'a pas. Beaucoup l'ont spontanément, d'autres sont obligés de travailler. C'est ça, c'est la résonance à l'intérieur, juste au-dessus des cordes vocales, donc dans le cou, qui se trouve entre, si vous voulez, la pomme d'Adam, ou équivalent, jusqu'au niveau des résonateurs, au niveau du nez. Oh, c'est ça, c'est toute cette résonance. Et c'est ça la cathédrale vocale, que tout le monde a, mais il va la manipuler différemment. Il y en a, ben c'est Notre-Dame de Paris, et puis il y en a, c'est une petite chapelle, mais avec des voix aussi belles, aussi sincères, aussi authentiques.
Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville, laissez entrer ces païens, ces vandales, la fin de ce monde.
C'est sans détour que le chanteur Claude Dubois parle de sa voix.
J'ai jamais tellement pris soin de ma voix, en réalité. Et ce qui était très étonnant, là, je parle du passé maintenant, là, je parle pas de maintenant. Alors, si j'avais veillé tard et tout, que j'avais un show le soir, on disait que plus ma voix était démolie, plus le monde aimait ça. Ça sonnait comme d'une façon un peu racoilleux et tout, avec une espèce de bruit de fond qui se mêlait à la voix, et les gens adoraient ça. Alors, c'était vraiment déroutant, parce que plus j'étais ravagé, il semblerait que plus ça plaisait.
Y a-t-il des choses qui vous gossent dans la façon dont votre voix a évolué? Ou...
J'ai travaillé beaucoup sur quelque chose qui me dérangeait. C'était un peu... Tu sais comme en Suisse, là, quand ils appellent les moutons... Là... Alors, j'avais tendance à faire un trémolo quand je chantais. Puis ça m'énervait quand j'avais une note tenue. Et j'ai travaillé là-dessus. J'ai jeté le trémolo, je l'ai retourné en Suisse.
Comment vous avez fait ça?
C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est presque un automatisme des cordes vocales qui font que se mettent à vibrer à un moment donné à cause de la note tenue. J'y suis arrivé. Comment j'ai fait? Je sais pas. J'ai pas de réponse. J'ai travaillé là-dessus, je le voulais pas, j'en voulais pas. En séance d'enregistrement, je recommençais, je me suis battu contre. Puis j'ai gagné.
Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. J'ai besoin de m'amuser. J'ai besoin pour vivre sur terre de soleil et de pluie.
Qui a permis à Jocelyne Béroard, la chanteuse du groupe Cassave, de trouver sa voix.
Chez nous, en fait, dans l'éducation, les bonnes manières, on ne doit pas parler trop fort, on ne doit pas crier, on ne doit pas... Voilà. Donc, c'est surtout en chantant que j'ai eu l'occasion, en fait, de sortir véritablement ma voix. Je crois qu'également, la langue est importante. Chez nous, quand j'étais plus jeune, on parlait le français. Dans le belay, chez nous, les gens qui chantent le belay, ils ont l'habitude de... Bon, sont souvent... Ce ne sont pas uniquement les gens de la campagne, mais pour la plupart, des gens de la campagne. Donc, ils n'ont pas ces restrictions que nous avons en ville. En ville, où il faut être plus posé, ne pas élever le ton, etc., etc. Enfin, les manières, quoi. Et c'est, je crois que dans l'expression même vocale, la personne qui va chanter le belay de chez nous, qui est une musique traditionnelle, va avoir une voix beaucoup plus forte, beaucoup plus imposante que quelqu'un qui vient d'une éducation comme la mienne. Et moi, j'ai été obligée, en fait, de la travailler pour la libérer, quelque part. Moi, je vais être plus hard, en fait, dans le... parce que je raconte des histoires. Quand c'est plus en rage, ben, elle va être un peu plus rock, un peu plus violente, un peu moins belle, moins lisse, moins... Voilà. Et si c'est une histoire douce, ma voix sera douce, elle va s'apprêter.
Pour ses interprétations de Maria Callas sur scène et au cinéma, l'actrice Fanny Ardant a cherché à comprendre comment la grande diva avait travaillé sa voix.
J'ai écouté beaucoup de musique, et souvent même quelquefois avec un casque. Et dans le casque, ce qui me frappait, c'est comment l'émotion qu'elle mettait dans ses personnages, on l'entendait dans ses respires. Quand tout d'un coup, elle devait, tu vois, comme s'il... Il fallait que quelqu'un lui vienne en aide pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait dans son cœur. Donc, j'ai beaucoup plus appris par la fragilité du corps et du cœur que par des faits. Et que, surtout, ce que j'ai appris, c'était tout ce qu'elle disait sur elle en tant qu'artiste. Par exemple, elle n'était jamais contente d'elle. Et j'aimais quand elle disait, il faudrait... considérer tout ce qu'on fait comme une répétition, c'est-à-dire comme si vous vous disiez « demain, je ferai mieux ». Voilà. Jamais se contenter de ce qui était acquis. Parce que je comprends aussi que toute vie d'artiste, rien n'est jamais acquis. tout est à toujours remettre, vous savez, 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et que ça, je trouvais ça passionnant. Au fond, sa vie avait été passionnante parce qu'elle était, elle s'était toujours avancée dans le noir et qu'elle avait cherché la lumière.
Malgré la richesse et la profondeur de sa voix, Maria Callas n'est pas satisfaite. Toujours en quête d'absolu et afin de pousser son art au paroxysme, elle sent un jour le besoin d'entamer une importante métamorphose physique. Tom Wolfe.
Elle raconte qu'en 1953, alors qu'elle chante Médée à Florence, elle n'a donc pas encore la carrière internationale qu'on lui connaîtra plus tard. Elle est déterminée à perdre du poids. Elle dit « J'avais besoin du menton pour Médée. Et j'avais un trop grand menton. » Et donc, c'est très intéressant parce que ça nous montre ce perfectionnisme incroyable, presque pathologique, qu'elle avait envers les personnages qu'elle interprétait et la crédibilité qu'elle voulait incarner, non seulement vocalement, mais aussi visuellement, vis-à-vis du public. Et donc, pour ce personnage de Médée, à Florence, elle commence à perdre du poids pour trouver l'expression, le menton, comme elle le dit, et puis la figure du personnage de Médée telle qu'elle la voyait et telle qu'elle voulait la présenter au public. Et puis, il y a une anecdote, c'est que, c'est ce que ses proches racontent, elle voit, à ce moment-là, sort au cinéma Roman Holidays, elle tombe en adoration devant Audrey Hepburn dans Vacances romaines, et elle est déterminée à lui ressembler. Elle veut lui ressembler à tout prix. Et Callas, avec la détermination qui la caractérise, va, en l'espace de quelques mois, perdre, je crois, plus de 20 kilos, peut-être même 30 kilos, et va devenir, tel qu'on la voit en 54 dans la Vestale, le public la découvre dans la Vestale, avec la figure d'Audrey Hepburn. Et donc, elle va se servir de ça pour Vestale, pour, évidemment, Violetta, en particulier, dans Traviata, en 55 et 56, pour Norma. Elle va être une Norma. C'est intéressant parce que elle commence à chanter Norma au tout début des années 50, alors qu'elle est encore très imposante et qu'elle n'a pas encore perdu du poids. Et on voit visuellement se succéder des Normas complètement différentes, jusqu'à une Norma beaucoup plus fragile, vulnérable, avec un physique qui est moins physique, imposant, mais qui ajoute, puisqu'elle se sert de tout ça, à l'émotion et à la fragilité du personnage qu'elle va incarner pleinement, à la fois vocalement et aussi visuellement, et puis bien sûr dans son jeu de tragédienne.
La métamorphose physique de Maria Callas, est-ce que ça a une incidence sur sa voix?
On a beaucoup dit que sa métamorphose physique avait eu une incidence sur sa voix. Elle l'a toujours réfutée, clairement réfutée. Je pense qu'il est difficile d'en déduire une cause à effet. Il n'y a pas eu de, concrètement et factuellement, il n'y a pas eu de, d'impact sur sa voix quand elle chante en 54 Vestale ou quand elle chante Traviata en 55, quand elle chante Médée encore en 58. Je veux dire, la voix était intacte. Après, c'est subjectif, d'aucun disque à partir de 59, de 60, on entend vocalement qu'il y a certaines notes qui ne sont pas les notes qu'on entendait 10 ans avant. Oui, mais n'importe quel chanteur, et encore plus un chanteur qui enchaîne la quantité de rôles et de répertoires et de concerts et d'opéras à la scène dans le monde entier, au rythme auquel Callas l'a fait pendant 10 ans, n'importe quel chanteur aurait certainement perdu ceci ou cela dans certaines notes aiguës. Est-ce que c'est lié proprement à sa métamorphose physique ou est-ce que c'est lié à l'intensité de la carrière qu'elle a eue, qu'elle s'est imposée et qui lui a aussi été un peu imposée par son mari, mais ça c'est une autre histoire, c'est très difficile de le dire. En tout cas, elle, dans ses propres mots, a toujours réfuté la thèse selon laquelle le fait qu'elle ait perdu du poids ait eu un impact sur sa voix.
Les cordes vocales sont des muscles dont on doit prendre soin. Catherine Ringer.
Je l'entretiens plus que dans mon jeune temps où je ne faisais pas d'entraînement tous les jours, par exemple. En période de concert, si, parce que ce n'est pas de l'entraînement, c'était des concerts. Mais maintenant, oui, je m'entraîne tous les jours, parce que je sais qu'à partir d'un certain âge, c'est comme tout, il faut s'entraîner mentalement, physiquement, si on ne veut pas perdre de muscles trop, si on veut rester souple, si on veut garder sa mémoire, il faut s'entraîner. Et moi qui suis chanteuse, il faut aussi que j'entraîne ma voix, donc je l'entraîne un peu tous les jours. Oui. J'ai cette discipline depuis une dizaine d'années, disons.
Et avec le temps, est-ce que votre voix change ?
Ma voix a descendu d'une octave pratiquement, c'est-à-dire que j'ai toujours un peu la même, tessiture, la large range, je ne sais pas comment on dit en français, comment ça s'appelle
Pas le registre.
Oui, voilà, le registre, et il a descendu d'une octave.
C'est-à-dire que là, je peux avoir des bons graves. Bien fort.
Alors que et dans les aigus, quand j'étais plus jeune, je montais ça l'octave au-dessus, donc ça faisait des voix de sifflet. Et hop, ça a tout descendu, c'est bien aussi. Mais elle est quand même encore bien en forme, ma voix. Je sais pas si ça va durer toute ma vie, mais pour l'instant, j'ai pas de tremblement. Ou de trucs qui... Ouf.
Et ça fait quoi d'entendre sa voix changer ? Est-ce que c'est difficile ?
À partir du moment où on continue à avoir des possibilités, c'est pas difficile. De toute manière, dans la vie, on change tout le temps. Tout change tout le temps. Il faut quand même l'accepter. Sinon, c'est pareil. Si on ne supporte pas d'avoir des cheveux blancs ou d'avoir une ride, ça fait toujours un effet. J'ai eu ma première ride, je me souviens, je crois que c'est toute petite ride sur le front, je devais avoir 22 ans, j'étais là, oh, déjà ? Mais bon, après, on se dit, bon, voilà, ça veut dire qu'on n'est pas mort, on avance dans la vie, et il faut s'entraîner, je crois.
Ce serait quoi la qualité qui vous plaît le plus ? De quoi êtes-vous le plus fier par rapport à votre voix ?
Bonne question, dans le sens où je n'ai pas tellement réfléchi à ça. Qu'est-ce qui me plaît le plus ? Dans le fait de chanter, c'est le fait qu'elle soit agile, qu'elle soit utile aux autres, qu'elle me vienne facilement. Après, si je l'écoute en tant qu'auditeur... Je trouve qu'elle a un grain qui est bien. Allez.
Plus que bien.
Oui, mais bon, c'est moi, donc voilà, qui est... Merci.
Chose impossible, rêve-moi toi qui est pauvre comme une fusée.
ses propres exigences. C'est pourquoi la plupart des chanteurs et chanteuses développent une routine, une hygiène de vie. Vu de l'extérieur, ces rituels peuvent parfois sembler rigides, voire même capricieux. Lara Fabian.
Regarde, là, je te donne l'exemple en temps réel. Il y a du tapis dans la pièce où nous sommes en ce moment. Et je suis ultra sensible au tapis. Et donc, en quelques secondes, entre le chauffage et le tapis, ma voix peut commencer à s'éteindre doucement. Alors, il y a plein de petits exercices que je peux faire. Je pourrais me mettre un petit coton fromage sous le, tu sais, une gaze, sous le nez rempli d'eau, respirer des gouttelettes d'eau, et dans 10 minutes, j'ai plus rien. Donc, j'ai trouvé aussi plein de petits chemins. Mais parfois, quand tu traverses des moments comme ça où ta voix est en difficulté et tu dis, ah oh non, là, tout d'un coup, je peux plus chanter, souvent, ça va avoir l'air un peu fou, voire un peu, comment dire, ça va ressembler à un caprice. Ce qui fait que là, en face de toi, t'as un interlocuteur qui ne comprend pas que tu te comportes comme ça. Elle est folle, tu sais. Elle est folle et capricieuse. C'est une diva, hein. On entend ce genre de choses. Ça a été beaucoup galvaudé, ce terme diva. Pour moi, diva, c'est un mot tellement sacré. Divin, c'est quelque chose qui est touché par la grâce. Dans notre société, dans notre show business, être une diva, ça veut dire demander des brocolis au cheddar à 4 heures du matin à quelqu'un, tu sais, quand le room service est fermé. C'est ça, être une diva dans notre société. Mais c'est pas ça, être une diva. Je vois que ça te fait rire, ça te fait sourire. Mais donc, si on remet les choses dans leur juste contexte, parfois on peut comprendre que ce qui est un caprice mal exprimé, ce qui est un caprice pour certains, pardon, est une maladresse ou une réalité mal exprimée parfois de la part du chanteur ou de la chanteuse ou de l'artiste qui utilise sa voix.
Toi, ce serait quoi, par exemple, quelque chose qui est banal, mais qui est très important pour ta voix, puis qui pourrait sembler être un caprice?
Eh bien, dans mon cas, ce serait la nourriture, parce que notre appareil digestif, malheureusement, pour tout ce qu'il produit après ou avant un repas, peut malheureusement envoyer des particules d'acide, d'une certaine façon, peut avoir une forme de reflux, qui peut vraiment être délétère pour la voix. Donc moi, je sais que, par exemple, manger est un véritable enjeu. Moi, je ne peux pas manger avant le concert, je dois nécessairement manger après quand tout le monde a fermé et quand il n'y a plus rien. Donc, je suis souvent obligée de demander de la nourriture à emporter. Ça peut, dans certains pays, c'est compliqué. Donc, je finis par avoir... J'ai développé des habitudes où je me fais toujours faire un peu de riz avant, un œuf dur ou des choses comme ça, et je mange après. Donc, ce qui pourrait ressembler à « Ah, elle ne veut pas manger avec nous », ou bien « Elle ne peut pas partager un repas avec nous », pourquoi elle mange toute seule après parce qu'après, j'ai besoin de silence, par exemple. Donc, ça aussi, ça m'a un peu désocialisée. Ça a pu me faire apparaître parfois comme quelqu'un de pas très sociable, le fait de ne pas pouvoir partager un repas. Mais sauf que si moi, je mange et que j'ai une montée de reflux, le show est fini, là. Il n'y en a pas de show. Et on attend le contre-sol de « Je suis malade ». On l'attend. Je dois le chanter. Donc, je ne peux pas dire au public « J'ai mangé du brocoli au cheddar à 4 heures du matin en buvant un bon vin rouge. » Puis non, je ne peux pas. Je ne peux vraiment pas.
Est-ce que tu chantes différemment quand tu vas bien que quand tu vas mal?
Si j'ai un état d'âme profondément nostalgique ou triste ou imbibé de quelque chose qui m'a heurté profondément, moi, je peux m'en servir pour concrètement le mettre dans ma voix et créer une performance particulièrement émouvante. Ça ne veut pas dire qu'on ne chante bien que lorsqu'on est triste, non. Mais parfois, lorsqu'on se fait l'acteur d'un texte ou d'un thème ou d'une chanson de notre vie qu'on a déjà chanté un milliard de fois et qui donc n'est plus connecté directement à la douleur et qu'on a tout d'un coup vécu quelques années plus tard encore une autre douleur, rechanter cette chanson sous ce drapeau de tristesse ou de souffrance lui redonne, j'ai envie de dire, de nouvelles couleurs.
Sèche tes pleurs, je ne partirai pas. Il m'en faudrait bien plus que ça pour tout détruire anéantir. Ça. Sèche tes pleurs et refais-moi l'amour. Te souviens-tu de cet enfant que tu voulais me faire en chantant? Je t'aime encore si fort, non pas sans toi. Je ne la vivrai pas. Si tu meurs
Cette semaine, c'est Jacques Brel qui vient vous parler à cœur ouvert. Nous le retrouvons au saut du lit. Quand on s'appelle Jacques Brel, comment se réveille-t-on? Gracieux? Malgracieux? Jacques Brel vous le dit à cœur ouvert.
Une pièce d'anthologie de 1967 sur Radio France.
Jacques Brel, avez-vous des réveils faciles ou difficiles?
Facile, très facile.
Est-il à quelle heure vous levez-vous d'habitude?
J'ai pas d'habitude.
Vous n'avez pas d'habitude?
Ça dépend où je dors, avec qui et comment. Vous comprenez, ça, tout est là. Là, ces jours-ci, je me lève à 6h du matin, et ben, je me lève facile. C'est après que c'est moins facile.
Que prenez-vous, un café ou un copieux petit déjeuner?
Un café. Alors, je vais tout vous raconter. Hein. Alors, je me fais du café.
Vous-même?
Moi-même. Je suis fort militaire. Et je mange du pain de la veille, n'est-ce pas, en général, parce que je n'ai pas la cause, j'ai pas le courage, avec un petit Suisse. J'adore le petit Suisse, avec du sel et du poivre. Et un œuf à la coque. Je peux vous donner le truc? 3 minutes 40. Sans quoi c'est trop, ça fait peinture à l'huile.
Et vous le jetez dans l'eau bouillante ou alors vous le mettez dans l'eau
froide? Je le dépose avec une cuillère. Voilà, et puis je fais mon petit déjeuner et puis je vais travailler, c'est tout.
Fumez-vous une cigarette après votre café?
Toujours.
È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, malcauto il cuore, ormai non sentasi felice appieno, chi in su quel seno non liba amore. La donna è mobile, qual più malevento, muta d'acceso. E di pensiere, e di pensiere, e di pensiere.
Le biographe et sa passion. Le ténor Luciano Pavarotti était très superstitieux et sa voix l'amenait à imposer des demandes plutôt excentriques. En 1994, Denise Bombardier reçoit l'animatrice et biographe Ève Ruggieri.
Donc le trac est quelque chose qu'on conjure comme l'on peut. Et alors Luciano Pavarotti, lui, il a des clous tordus. Et alors c'est extraordinaire, parce que comme tout le monde sait ça, le jour des premières, on marche comme par hasard sur les clous tordus. Il y en a un tous les 25 centimètres.
Oui.
Donc il sait très bien qu'on les a mis avant.
Bien sûr.
Mais ça fait rien, c'est une sorte de... Vous savez, c'est les gamins qui le soir ne peuvent pas s'endormir s'ils n'ont pas tourné leurs pantoufles dans le sens... Je ne sais pas, tout le monde a des gris-gris comme ça.
Et vous dites que Pavarotti...
Pavarotti
ne voyage pas en première classe parce qu'il veut être assis près des moteurs. Et les moteurs, c'est un classe
économique. Il veut surveiller les moteurs.
C'est vrai, mais il fait
ça. Oui, il fait ça. Alors les gens sont... Mais il a un contact avec les gens tout à fait étonnant.
Oui.
Je crois que c'est... Si on compare, vous savez, on fait toujours la comparaison entre deux ténors de grand prestige, que sont Pavarotti et Domingo. Donc, Domingo a un succès auprès des femmes extraordinaires, parce que c'est un homme très séduisant, qui est très beau. Et qui sait très bien en plus qu'il adore les femmes et qui joue de son charme, etc. Mmh. Luciano, il pèse ses 130 kilos.
Mais ça n'empêche pas les femmes d'être folles de lui quand même.
Oui, mais c'est très, très différent. Je veux dire, la manière dont ça se passe est vraiment très, très différente. Et c'est vrai que quand on compare aujourd'hui leurs deux carrières, je pense que Luciano doit être plus âgé que Placido Domingo, mais Placido a la voix qui n'est plus tout à fait ce qu'elle était, alors que la voix de Luciano, ça répond un peu à cette histoire de retraite,
oui.
Est restée absolument intacte. C'est miraculeux. Il a une voix parfaite. Parfaite dans les aigus, qui n'a pas... En général, vous savez, toutes les voix baissent avec l'âge.
Oui.
C'est-à-dire que les sopranes deviennent mezzo, les ténors vont vers le baryton, et Placido, maintenant, dans certains... je l'ai écouté l'autre jour dans Tosca, en termes de métier, on dit baryton un peu, c'est-à-dire que les aigus sont légèrement en dessous. Alors que Pavarotti, j'ai écouté chanter Solomillo, la dernière fois que je l'ai vu à New York, chanter dans sa cuisine. Il faisait des spaghettis, et alors la dame qui surveille son régime s'était absentée. Donc il en avait profité en disant, viens, on va se faire des spaghettis à la carbonara, on a mis plein de crème, tout ce qui est défendu. Alors du coup, il était tellement content qu'il s'est mis à chanter au sol.
Mais à pleine voix, là.
À pleine voix.
Bella cosa, la giornata è sole,
fronte a te.
Mais je me suis dit, mais c'est fou, on doit l'entendre de l'autre côté du parc. Il a une puissance de voix, une beauté de voix. Il n'y a pas le moindre... Vous savez, parfois, les vibratos des voix sont quand les chanteurs vieillissent, comme Callas, par exemple, ça devient très large. Et c'est pas beau, ça fait une espèce de voix qui bouge comme ça. Lui, c'est du marbre. Enfin, la colonne de son sort, c'est parfait jusqu'au bout.
Est-ce qu'il il a l'obsession permanente?
C'est un bosseur fou. C'est un type qui ne pense qu'à travailler sans arrêt, à protéger sa voix. Pour ça, je dis que son défi est à la fois somptueuse et effroyable.
Oui.
Parce que moi, je le vois.
Ce sont des monstres, en fait.
Il est drapé dans ses draps de bain, là, autour du cou. Il a des cataplasmes. Alors, on ne fume pas, on ne boit pas d'alcool. On ne parle pas deux jours avant le récital. On coupe toutes les climatisations. Il ne faut pas voyager avec lui en avion. Si vous n'aimez pas la moiteur, parce que tout est coupé dans l'avion. Donc, il y a 300 personnes qui ruissellent de sueur. Parce que la climatisation, c'est mort. Oui.
Ce qui est incroyable, c'est que Pavarotti, au fond, il provoque le même type de réaction que les Beatles ou les Rolling
tout
Stones.
Il a
accédé à quelque chose.
Mick Jagger,
oui, c'est ça. Je veux dire, entre les grands mythes rock et Pavarotti, il n'y a pas de différence d'intensité.
Et je crois que ça tient.
Ce que ne provoque pas Domingo, quand même.
Non, mais parce que, d'une part, parce que Domingo, soyons honnêtes, n'a pas chanté le répertoire très populaire, que chante
d'ailleurs
Luciano
Pavarotti. D'ailleurs, c'est ce que reproche voilà. Cure à Pavarotti.
Mais parce que Luciano est né en Italie. Quand on est en Espagne et quand on est en Italie, c'est pas la même chose. En Espagne, les hommes ont ce côté un peu hidalgo, séducteur, orgueilleux, et on prend tout très au sérieux. Les Espagnols sont des gens qui prennent tout très au sérieux. Les courses de taureaux, les ferias, tout ça, les fêtes religieuses, tout ça est toujours dramatisé à l'extrême. Alors que les Italiens ne peuvent pas s'empêcher d'aimer le plaisir par-dessus tout, et ça leur donne une distanciation formidable. Et quand Pavarotti chante au Sole Mio, je sais pas quoi, volare, et là, là, bon, les trucs que chantent les maçons dans les rues des vieilles villes italiennes, sur leurs échafaudages, il a la même simplicité et le même bonheur à le faire que lorsqu'il chante l'opéra.
Oui.
Pavarotti est quelqu'un qui rayonne véritablement. C'est une espèce d'énorme soleil qui a besoin de partager son bonheur de chanter. C'est une espèce de sensualité de la voix et de chaleur.
Oui.
Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù.
La voix, l'interprétation et le trac, un ménage à trois vieux comme le monde. En 2013, une interview de Stromae par l'animatrice Pascale Clark.
On vous appelle souvent, Stromae, le nouveau Brel, le Brel belge. Je sais, c'est énervant.
Mais non, pas du tout, c'est un super beau compliment.
Bah, évidemment, c'est un beau compliment parce que mieux vaut Jacques Brel que je citerai personne, mais... Et pourtant, là aussi, la liste est longue.
Tout le monde attendait le « à qui ?»
Mais quand même.
Mais mais c'est un super compliment. Après, c'est à moi de surprendre. Mais apparemment, c'est à jamais un super bon professeur d'interprétation pour moi. Et donc,
qu'est-ce que vous en pensez, lui, Jacques Brel?
Je crois que c'est un grand monsieur, d'ailleurs.
Non, mais on n'est pas obligé de l'aimer, après tout.
J'aime pas tous ses titres. Hein, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses que j'aime de lui, oui, tout à fait. Et dont justement l'interprétation, le fait d'aller à fond dans son sujet, quoi, quand il venait parler de... justement, je prenais un peu le rôle de Jeff, par exemple, pour moi, le formidable, c'est Jeff, en fait. Moi, j'aime bien ces R comme ça. Je sais pas pourquoi, il y a un côté vieux français que j'adore, même si c'est que simplement une façon de parler, mais... Et puis, il y a un côté un peu bruxellaire aussi, je sais pas, c'est une façon... J'ai l'impression que c'est plus ça qui fait qu'on se rapproche, ou bien qu'on fait le rapprochement. Parce qu'il y a une façon de déclamer, il y a une façon de vivre un texte, il y a une façon de l'interpréter et pas juste de chanter un morceau.
Alors il paraît que Jacques Brel, il n'y avait pas une fois où, avant d'entrer sur scène, il ne vomissait pas. Pardon de parler de ça à cette heure-là, mais quelles sont les expressions du trac chez vous ?
Alors, c'est pas très classe, mais moi, c'est la diarrhée, en fait.
Oh non !
Alors, Jacques Brel, vomissait, moi, je fais...
Combien ça sorte, voilà, d'une façon ou d'une autre. Ah, c'est vrai ?
Alors, on danse. Alors, on danse. Alors, on danse. Et là, tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben, il y en a encore. La zik ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante.
Le béaba de la présence sur scène pour Serge Lama.
Il faut sentir qu'on est dans le sol, quoi. Le vrai sol. Peut-être celui chez qui ça se remarque le plus, c'est Brel. C'est Brel. Il est ancré dans le sol d'une façon que pas tous les chanteurs ont ça. Ça part des pieds. Même un comédien, il faut apprendre. Quand on est sur scène, c'est des pieds jusqu'à la tête. Et après, la tête est libre et la tête fait ce qu'elle veut. Et quand vous chantez avec une guitare, c'est pas pareil que quand vous chantez sans instrument dans les mains. Parce que vous êtes obligé de consacrer du temps à un instrument qui, malgré tout, est là. Et donc, l'ancrage dans le sol est beaucoup plus difficile. Et Brel l'a très bien compris. Parce qu'un jour, il a jeté sa guitare. Et Brel s'est trouvé quand il a abandonné la guitare. Ça commence avec Quand on a que l'amour qui chante à la guitare, c'est le tournant. Et à partir de là, sa carrière prend 8 ans de succès ininterrompu.
Pour le mot de la fin, Jacques Brel, au micro de Dominique Arban en 1967.
Et une chanson, c'est fait non pas pour être chantée, c'est fait pour être. Non. Mon petit monde à moi, c'est fait pour être raconté aux gens. Et si tout mon corps n'aide pas ce texte, c'est pas une chanson. C'est un petit truc écrit, plus ou moins habile, plus ou moins adroit, plus ou moins raté, avec une petite musique. Comprenez, si par malheur un jour on lit Rimbaud et on écoute Debussy ou Ravel, on ne peut plus sérieusement croire qu'une chanson est quelque chose de joli. Il faut qu'au-dessus de cette chanson se mêle un corps, une chair, enfin, et qui doit éclater pratiquement jusqu'à tomber. Enfin, si l'acte d'amour n'est pas suivi d'un énorme épuisement, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et un tour de chant, s'il n'est pas suivi d'un énorme épuisement, c'est peut-être qu'on fait admirablement un métier. Mais c'est sûrement qu'on ne les aime pas. Récemment, j'ai entendu un type...
Les
autres, c'est qu'on ne les aime pas. J'ai entendu un gars qui fait des chansons très bien, pour lesquelles j'ai beaucoup d'estime, et qui me dit, moi, tu vois, j'ai appris à ne plus transpirer. Et je crois exactement que... Mais il a ses problèmes. Enfin, il arrange ça. Et moi, je crois que si un jour je ne transpirais plus, c'est que je ne les aimerais plus. J'ai la faiblesse de croire ça.
Cette transpiration, c'est une forme de votre épuisement.
Oui, non, c'est le résultat, c'est la preuve. J'ai besoin de preuves, moi. Oula, j'ai besoin de preuves. De moi.
Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de sortir des détours du côté de l'amour. Quand c'est charmant, une valse à quatre temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à 20 ans. C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans. À chaque carrefour, on parlait que l'amour après chute au printemps, une valse à 1000 temps. Une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu m'aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps, une valse à 1000 temps. de ses mille temps, face de sa montre, sans foutre, pas le temps de bâtir un roman. La 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 la.
C'était Histoire de voix, une série des médias francophones publics. À la narration, Anne Dorval. À la technique, Patrick Knoop. À la recherche, Marie-Christine Blais et Jean-Philippe Roux. Avec une musique originale de Joseph Marchand. Musicothécaire, Tina Gervais. Adjoint à la réalisation, Pierre-Antoine. Cette émission est signée Francis Legault.